Bonjour, bienvenue à Point de vue. Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire aujourd'hui, une série podcast fait grand bruit dans l'ouest du pays. Mystère, meurtre irrésolu et banditisme au programme de la série Blood on the Prairie.
Beaucoup de jeunes hommes sont envoyés outre-Atlantique et ne reviendront jamais. La grippe espagnole est déjà là, et c'est déjà, mais on apprend plus tard que justement elle va faire des ravages dans les mois qui vont suivre.
L'incertitude sanitaire a finalement eu raison des Jeux de la francophonie, des territoires du Nord-Ouest. L'édition 2025 est définitivement annulée.
Dans trois ans, on ne sait pas ce que tout le monde va faire. Il n'y a personne qui peut se commettre. Puis quand tu fais ton bid pour les Jeux, c'est qu'il faut que ça soit tout réglé, ça.
Il y a des villes canadiennes qui arrivent mieux que d'autres à retenir les citoyens canadiens en devenir. Edmonton se tire pas mal d'affaires en occupant la troisième marche du podium.
Nous sommes bien partis pour maintenir cette tendance. D'abord, pourquoi? Parce que l'Alberta, c'est une province où il y a de l'emploi. La rétention de ce qu'on appelle des immigrants économiques. Edmonton est devant Toronto et Vancouver.
Et on célèbre cette année le 75e anniversaire de la Société Saint-Pierre de Chéticamp dans les Maritimes, un organisme qui a joué un rôle clé dans la protection du fait français en Nouvelle-Écosse.
La communauté s'anglicisait, puis il fallait trouver une façon pour offrir aux jeunes le moyen de poursuivre son éducation en français.
Bienvenue à Point de vue. Eh bien, l'Alberta est le théâtre d'une nouvelle série podcast, Blood on the Prairie. Lancée plus tôt cette année, cette série audio remonte le temps et revient sur une série de meurtres qui ont défrayé la manchette au début du siècle dernier, entre 1918 et 1920, à Grande Prairie, en Alberta. Des histoires captivantes qui font un tabac et qui nous renseignent sur des faits qui ont marqué des résidents de l'Ouest canadien au siècle dernier et qui les impressionnent certainement encore aujourd'hui. Le podcast Blood on the Prairie, Meurtre à Grande Prairie a longtemps fouillé les archives régionales de l'organisme South Peace, qui a collaboré d'ailleurs de près au travail de reconstitution fait par deux podcasteurs locaux, Chris Beauchamp et Chris Cepola. Ce podcast est un vrai petit bijou qui combine des faits vécus accompagnés d'une mise en scène présentée sous la forme d'un suspense à découvrir sur Blood on the Prairie podcast. Notre journaliste IJL Hélène Lequitte en discute au micro de notre collaboratrice Gisèle Bouchard.
Bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, bonjour Gisèle, oui, ça va bien, merci. Et oui, c'est vraiment fascinant, hein, ce podcast.
Ah oui, oui. Blood, c'est toute une histoire, là.
Oui, exactement, et comme tu l'as bien dit, c'est une initiative de deux, on va dire, podcasteurs, si je peux dire, locaux,
oui.
Qui s'appellent Chris Beauchamp et Chris Cepola. Alors Chris, c'est avec deux orthographes différents. Hein. Ça raconte déjà une série de meurtres, six pour être exact, et c'est pour ça que la première saison s'intitule Murder of Six. Et la particularité, Gisèle, ce qui rend vraiment ces histoires si fascinantes et qui vous avez déjà intéressé dans le volet des histoires mystérieuses de Rivière-la-Paix, c'est que cette série est basée sur des histoires vraies. Et je propose déjà qu'on en découvre un court extrait.
June 1918, Northern Alberta, Canada. The First World War is months from ending, and men from communities across Canada are still overseas. Many, of course, will never return home. The Spanish flu pandemic, relatively mild in the spring, is a few months from shocking everyone with its deadly second wave. And in the northern frontier village of Grand Prairie, located several days' travel north of the provincial capital of Edmonton, a horrific discovery is about to be found.
The first two bodies were found in a sod-roofed log farmhouse 3 miles northwest of town. Joseph Snyder and his nephew Stanley. Seeing the cabin on fire, a neighbor set off to bring the police. They were too late.
T'as entendu, Gisèle, la petite musique?
Oui, c'est à glacer le sang. Hein?
Ça plonge dans une ambiance, déjà, ça donne le ton. Et puis je trouve que c'est bien écrit, la façon dont ils sont en train de narrer ça, toute cette histoire, je trouve ça vraiment bien écrit. Et ce qui interpelle aussi, c'est le travail de reconstitution historique qui traite justement, l'entendu à la fois de comment était la vie en 1918 à Grande Prairie, Bien entendu, on parle de ce qu'ils appellent, eux, le grand meurtre de masse non résolu de l'Alberta, puisque là, c'est le premier meurtre d'une série de six. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça porte bien son nom, hein, Murder of Six. Alors, pourquoi? Bah, parce que, justement, parmi ces six, victimes, on va trouver des personnages comme Ignace Patton, Charles Zimmer, John Woodwend, Frank Parzyshovsky, Joseph Snyder et Stanley Snyder, qui sont toujours de 1918 jusqu'à 1920 non résolus. Et c'est pour ça qu'à l'époque, le procureur général de l'Alberta, c'est ce qu'on va découvrir aussi au fil de ce podcast, c'est qu'un certain J.R. Boyle va offrir une récompense de 5 000 $ à toute personne qui sera susceptible de fournir des renseignements qui mèneront justement à l'arrestation et la condamnation de ces six meurtres, parce que depuis 1918, l'enquête piétine.
Puis il faut le dire, hein, 5 000 $ en 1918, c'était pas rien. Hein.
Ah, c'est énorme.
C'est énorme, c'est une somme énorme, là.
Donc, on sent qu'il y a une urgence quand même derrière, il y a une inquiétude hein, pour qu'il y ait autant d'argent mis sur la table. Et puis, manifestement, justement, ce qu'ils avaient en commun, toutes ces personnes-là, c'est qu'ils avaient justement de l'argent, des biens. Alors, pourquoi l'enquête piétine, justement? C'est parce qu'à l'époque, les temps sont durs. C'est Alyssa Curry, l'ancienne directrice générale des archives régionales de South Peace, qui a expliqué en entrevue sur... D'ailleurs, on peut la réécouter, hein, cette entrevue sur la page Facebook de Blood on the Prairie, que les meurtres commis à l'époque, ce n'était pas nécessairement la priorité, parce que comme on l'a entendu, c'est vrai que ces histoires se situent quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de jeunes hommes sont envoyés outre-Atlantique et ne reviendront jamais. La grippe espagnole est déjà là, elle sévit déjà, mais on apprend plus tard que justement elle va faire des ravages dans les mois qui vont suivre. Et puis, Gisèle, c'est vrai que cette série, ça a demandé une fois encore un gros travail d'historien avec les archives, hein, grâce aux archives régionales de South Peace.
Des histoires très, très captivantes. Les podcasteurs là, aidés là, des archives régionales de South Peace là, ont vraiment fait un travail, là, ont étoffé les archives de la région pour avoir le plus de détails possible sur l'affaire. Là.
Oui, c'est ça, c'est un travail de fourmi. C'est intéressant de voir comment on peut lier l'histoire avec des outils aussi percutants qu'un podcast. Ça s'écoute très très bien et d'ailleurs on découvre une galerie de portraits. J'aimerais bien revenir un petit peu sur certains personnages comme John Woodwend, surnommé Petit Jean le Russe. D'ailleurs, il avait toutes sortes de surnoms apparemment. Donc lui, dans son cas, je crois que c'est le premier qu'on va découvrir dans l'été qu'il avait des parts dans une entreprise qui posait des pièges le long de la rivière Wapiti pour la traite de la fourrure. Et donc on va le retrouver mort avec juste quelques billets de banque sur lui parce que lui, il faisait pas du tout confiance dans les banques, donc il gardait tout son argent sur lui. Il peut effectivement être un mobile sérieux, hein, et crapuleux pour tuer quelqu'un. Et c'est vrai que là aussi, il avait presque 5 000 $ en espèces. Donc c'est vrai que ça peut attirer les malfrats, les criminels. Et puis il y a aussi cet autre portrait de Joseph Snyder qui a été assassiné dans la nuit du 19 juin 1918, qui était lui un prospère propriétaire terrien de Grande Prairie.
Oui.
Et là encore... on va le découvrir mort, alors crime crapuleux ou pas. Et là, c'est vraiment juste deux exemples hein, des six personnes justement qui vont être assassinées, un peu la Cluedo. Hein. Et en tout cas, c'est sûr que l'élaboration de cette histoire pour reconstituer l'histoire et l'assassinat de chacune de ces personnes, ça a demandé beaucoup de temps et d'efforts grâce, faut le redire, aux archives régionales de South Peace, qui est une organisation locale très très importante, qui a fait beaucoup d'ailleurs pour ce projet-là. À la lumière de tout ça, moi je continue à penser, Gisèle, qu'il y a décidément énormément de fantômes en Alberta.
Alors, je suis complètement d'accord avec toi, Hélène, je te jure. Là, il y a toutes sortes de mystères. Moi, j'invite les gens à la fois à écouter Blood on the Prairie. Alors, je te remercie, Hélène.
Puis, merci à vous.
Bye-bye.
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et à 1500 km au nord de la ville d'Edmonton, bien on trouve Yellowknife où l'incertitude sanitaire et économiques auront finalement eu raison des Jeux de la francophonie qui devaient se tenir là-bas en 2025. La Fédération franco-ténoise FFT coordonnait ce projet, mais elle jette la serviette. Il y a trop de variables sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, explique Jean-François Pitre, le président de la FFT. Ça nous mène trop loin, il y a trop d'imprévus à l'horizon, selon M. Pitre. Le FFT ne pouvait garantir donc l'engagement des organisateurs sur une aussi longue période. À l'heure actuelle, dit-il, on ne sait pas où tout le monde sera rendu dans 3 ans. Lorsqu'on soumet une candidature pour les Jeux de la francophonie, tout doit être coulé dans le béton. Je ne suis pas convaincu, dit-il, que toutes les entreprises vont bien à Yellowknife et que nous aurions pu amasser des fonds comparables à ce que nous aurions obtenu lors des Jeux précédents quand tout allait bien et que tout le monde se mettait ensemble pour que ce soit un succès, regrette M. Pitre. De Yellowknife, les précisions de Thomas Etier.
Les Jeux de la francophonie canadienne de 2025 n'auront finalement pas lieu à Yellowknife. L'instabilité économique générée par la COVID-19, jumelée à un haut niveau d'incertitude sur le plan organisationnel, a incité la Fédération franco-ténoise à se retirer du projet. La directrice générale, Linda Bossé, a partagé la nouvelle à Média Ténois le 18 janvier. La FFT a annoncé en novembre 2020 avoir été sélectionnée pour accueillir les Jeux de 2023, en ajoutant toutefois que le tout était retardé de 2 ans en raison de la pandémie. Le plan se sera finalement avéré trop risqué aux yeux du conseil d'administration, selon le président Jean-François Pitre.
Il y a tout le variable qu'on ne peut pas contrôler.
Selon M. Pitre, la FFT ne pouvait garantir l'engagement des organisateurs sur une aussi longue période.
Un des plus gros aspects, c'est que dans 3 ans, on ne sait pas ce que tout le monde va faire. Il n'y a personne qui peut se commettre. Puis quand tu fais ton bid pour les Jeux, c'est qu'il faut que ça soit tout réglé, ça. Quand on embarque là-dedans, c'est 100% ou ça ne marche pas.
L'incertitude économique qui s'est installée depuis les 2 dernières années s'impose également comme un obstacle majeur aux yeux de la FFT, qui craint le faible engagement de potentiels commanditaires.
C'est qu'économiquement, en ville, là, que d'habitude, quand il y a des Jeux, c'est qu'il y a beaucoup de business qui vont t'aider, ils vont financièrement ou en in-kind, tu sais. Mais là, oublie ça, là. Je suis pas convaincu qu'on allait à des gros montants d'argent, là, comme dans les autres années, que ça allait bien, puis que tout le monde se mette ensemble pour que ça arrive.
Jean-François Pitre dit s'engager dans l'organisation de Jeux de la francophonie depuis 1984. Selon lui, la crise que traverse le pays pourrait affecter plusieurs villes hautes potentielles. La porte pourrait donc être toujours ouverte l'an prochain.
C'est que maintenant, les villes ont perdu tellement d'argent qu'on n'aura peut-être pas personne qui va y prendre. Mm-hmm. Mais si dans un an, l'équipe qui est là, qui va être là, est prête à passer un autre 20 à 28 mois à mettre ensemble et qu'ils sont capables... C'est ça serait
La ville d'Edmonton fait bonne figure en matière de rétention de ses immigrants. En fait, elle est 3e au pays et juste derrière les villes de Vancouver et de Toronto à séduire les nouveaux immigrants et citoyens en devenir qui y font leur entrée. C'est ce que révèlent en tout cas les données compilées entre 2014 et 2019 par l'organisme fédéral Statistique Canada. Le taux de rétention recense en fait le nombre d'immigrants qui restent dans la ville ou province dans laquelle ils ont été admis. Vancouver occupe la pole position de ce palmarès, ce n'est pas étonnant. Ce palmarès de rétention avec un taux de 86,1%, Toronto pas loin derrière avec un taux de 85,5% et Edmonton complète la 3e marche du podium avec un taux de 84,6%. Fait à noter, Edmonton est la ville qui retient le mieux la catégorie des immigrants économiques. L'organisme local Francophonie albertaine plurielle estime que ses actions ont contribué, en tout cas au moins un peu, au succès qu'affiche la province. La recette, une complémentarité exemplaire entre les actions des différents organismes d'aide à l'intégration de la ville d'Edmonton, mais aussi de la province albertaine. Notre journaliste Vincent Savard a voulu en savoir plus. Il reçoit le directeur général de la francophonie albertaine plurielle, Alphonse Ndem Aola.
Je pense que... Depuis 2019, nous avons fait un travail extraordinaire en termes de non seulement l'accueil des immigrants, qui arrivent au niveau de l'Alberta, mais aussi même au niveau de l'amélioration du niveau des services en général, d'accueil au niveau de notre communauté, mais aussi un travail de connexion entre les différents partenaires d'établissement. Parce qu'il faut très bien comprendre que si la FRAP accueille, certes, la FRAP ne fait pas tout. Il y a d'autres organismes à la cité francophone qui font dans l'emploi, par exemple, comme Accès Emploi, mais aussi d'autres organismes qui font dans la petite enfance, par exemple, comme l'IJLF, d'autres organismes qui font dans l'éducation, d'autres organismes qui font dans les médias, comme vous. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est tout ça qui contribue réellement à consolider une structure dans laquelle l'immigrant se sent accueilli. Et qu'est-ce qui fait en réalité l'attraction, par exemple, de la communauté francophone? C'est, je pense que d'abord au niveau des écoles. C'est-à-dire que nous aidons les immigrants qui arrivent à s'intégrer facilement dans les écoles. Mais il faut aussi dire que les écoles francophones ont tout de même une bonne réputation. Je pense que nous sommes bien partis pour maintenir cette tendance. D'abord, pourquoi? Parce que l'Alberta, c'est une province où il y a de l'emploi. Mmh. Certes, nous avons connu une des grosses difficultés économiques ces derniers temps, mais on est en train de se relever petit à petit. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Parce que ce que vous devez savoir, par exemple, dans le reportage de Statistique Canada, c'est qu'au niveau de l'emploi, la rétention de ce qu'on appelle des immigrants économiques, Edmonton est devant Toronto et Vancouver. Or, ça, ce sont justement des immigrants qui viennent avec des qualifications et qui cherchent un emploi. Alors, s'ils choisissent de rester à Edmonton, ça veut dire que le tissu d'opportunités d'emploi d'Edmonton est remarquable. Et c'est presque la même chose aussi à Calgary.
Quelles sont les opportunités d'emploi qu'il y a ici à Edmonton?
Bon, l'une des caractéristiques intéressantes d'Edmonton, c'est que Edmonton, c'est une ville, je dirais, hybride. Elle est industrielle et en même temps une ville de fonctionnaires ou de bureaucrates, tout ce que vous voulez. Donc, quand vous arrivez ici, si vous êtes bureaucrate, vous allez trouver votre compte. Si vous êtes industriel, vous allez trouver votre compte ici. Des petites entreprises, vous allez trouver votre compte. Restauration, vous allez trouver votre compte. Parce qu'il faut peut-être vous signaler que Edmonton, en termes de restauration, est l'une des villes les mieux classées en Amérique du Nord. Et en termes d'infrastructures de loisirs, par exemple les parcs, vous devez savoir aussi que Edmonton a l'un des circuits de parcs les plus importants d'Amérique du Nord. Donc je pense que c'est autant de choses qui font de notre ville, qui la mettent vraiment en pole position pour pouvoir se retrouver dans ces statistiques-là. Il y a plus de gens qui restent à Edmonton que qui partent d'Edmonton. Peu de gens partent de l'Alberta et ça, c'est une très bonne chose pour nous.
Ça va peut-être aider justement à monter le pourcentage qu'on veut atteindre selon la loi des langues officielles, là, parce que le 4,4%, ça fait plusieurs années qu'on essaie de l'atteindre. On n'y est pas encore, mais peut-être que Edmonton va aider un petit peu dans le pourcentage, mais il y a encore du boulot à faire.
Oui, nous l'espérons. Et je suis heureux que tu le soulignes, parce que tu sais, il y a environ 3 semaines, la FRAP a écrit une lettre de protestation au gouvernement fédéral. Parce que, justement, ces 4,4% sont problématiques, mais c'était surtout lié au fait que des étudiants francophones, d'Afrique francophone, ont eu pratiquement 100% de refus, entre 80 et 100% de refus de leur visa d'études, alors qu'ils étaient déjà acceptés par des universités au Québec, alors qu'à côté de ça, des étudiants qui viennent, par exemple, de l'Europe, comme de la France, de la Belgique et autres, étaient acceptés à 100% en même temps. Alors ça, non seulement c'est de la discrimination, mais ça pose justement problème pour nos 4,4%. Ouais. Comment est-ce que nous allons réussir à atteindre 4,4% si les candidats de la principale source d'immigration francophone du monde sont refusés à 100%.
Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Alphonse Aoula.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Vincent.
Merci à Vincent Savard et à Carole Saint-Cyr. Prenons la direction de l'Est du pays maintenant. On souligne cette année au Cap-Breton le 75e anniversaire de la Société Saint-Pierre, qu'abrite la région acadienne de Chiticamp, Nouvelle-Écosse. Fondée en 1947, la Société Saint-Pierre veille depuis sa création à préserver et à promouvoir la langue et la culture acadienne dans tout l'est du pays. Elle travaille au développement communautaire, touristique et économique de la région. La Société Saint-Pierre possède l'édifice des Trois Pignons, lequel abrite un musée, une galerie de tapis hockey et un centre de généalogie. La Société Saint-Pierre a toujours travaillé à la conservation de notre héritage et à la promotion de nos intérêts intellectuels, culturels, sociaux et économiques, et n'a jamais manqué d'assumer sa responsabilité dans la revendication de nos droits en tant que minorité linguistique et culturelle, précise Lisette Aucoin Bourgeois, qui dirige la Société Saint-Pierre depuis plus de 20 ans. Notre journaliste Daniel Aucoin la reçoit à son micro.
Alors bonjour Lisette.
Bonjour Daniel.
On souligne cette année le 75e anniversaire de la Société Saint-Pierre ici à Chiticamp, une association qui continue comme ça de jouer un rôle de première importance dans la sauvegarde de la culture acadienne et dans le développement communautaire. Lorsque la société a été fondée en 1947, c'est sûr que les buts étaient peut-être moins nombreux et c'était un peu différent à ce moment-là.
Oui, c'était une question au tout début de l'éducation en français. Les gens de la région de Chiticamp réalisaient qu'il y avait beaucoup de... La communauté s'anglicisait, puis il fallait trouver une façon pour offrir aux jeunes le moyen de poursuivre son éducation en français. Alors, ils sont... Puis au tout début, il faut dire, c'était pas juste Chiticamp et Le Moyne et Magré, c'était plus grand que ça. C'était même le côté de Richemont, puis par même le diocèse d'Antigonish. Alors, c'était, oui, strictement éducation qui était leur premier but.
Et plus tard, au début des années 70, on a mis en vieilleuse la Société Saint-Pierre, mais on l'a quand même ressuscitée en 1974. Et un peu plus tard, comme ça, on a décidé de bâtir notre centre, le siège social culturel qu'on a nommé les Trois-Pignons. Il faut dire qu'avec les Trois-Pignons, ça a été un peu un nouveau départ, une résurrection pour la Société Saint-Pierre.
Oui, ça, c'est les mêmes années que la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse a été créée, puis qu'il y avait... Ils pensaient peut-être qu'à ce temps-là, qu'il y avait une duplication de mandats entre les deux organismes. Alors, la Société Saint-Pierre, en réunion qui avait des membres, je pense que c'était à Sydney ou New Waterford, a décidé de cesser leur activité pour un bout de temps. La FAN, la Fédération, a été créée. Puis, quelques années plus tard, sous la direction du père Charles Aucoin, il y a eu une autre rencontre, puis le désir était, c'était unanime qu'on voulait recommencer le travail avec la Société Saint-Pierre. Ça prenait une place pour question d'archives, ce que les gens allaient, ça nous prenait une place, oui, il n'y avait absolument pas de bureau de la Société Saint-Pierre en temps. Fait qu'ils ont été chercher de l'argent du gouvernement, c'était DEVCO, c'était appelé ce temps-là, aujourd'hui ça serait l'APK, ACOA en anglais. Pour aller chercher le financement pour bâtir un édifice qu'on appelle les Trois-Pignons. Ça s'arrêtait dans les années 77-78 qu'on a bâti la bâtisse. Puis on l'a appelé les Trois-Pignons, basé sur une chanson traditionnelle, l'a fait bâtir à Trois-Pignons. Puis c'était Yvan Leblanc, qui avait travaillé beaucoup à Louisbourg, qui est venu à une activité de la Société Saint-Pierre, puis que la chanson avait été jouée. Puis il avait trouvé ça pas mal spécial, fait que ça a resté. Puis les Trois-Pignons ont vu jour.
Il y a eu toutes sortes de gros projets entrepris pendant toutes ces années-là par la Société Saint-Pierre, des projets qui ont contribué beaucoup au développement de la région acadienne.
Oui, comme la Société a assumé la responsabilité de différents organismes qui commencent, qui étaient peut-être pas même dans leur mandat. Par exemple, la plage Saint-Pierre, qui était la propriété de la paroisse, puis ils voulaient s'enlever cette responsabilité-là. Mais ça créait des emplois, puis le tourisme était... à la hausse, puis on voulait quand même appuyer le dossier touristique. Alors, il a été propriétaire du terrain, de la plage Saint-Pierre pour beaucoup, beaucoup d'années. Même quand j'ai embarqué ici à la direction générale, la plage Saint-Pierre était une de mes responsabilités. Mais aussi l'imprimerie Nordais, c'était l'imprimerie Richardson aujourd'hui. Ça, c'était aussi à la Société Saint-Pierre. On avait les maisons de la Société canadienne d'hypothèque, CMHC, les maisons. Cette année, on fête notre 47e Festival de l'Escaouette. On a toujours essayé d'organiser une activité pour souligner notre culture acadienne. On a coordonné des grandes activités telles le bicentenaire de Chiticamp, le Congrès mondial en 2004, la galerie Élisabeth Lefour. Ici, on a acheté les tapis à Élisabeth Lefour pour préserver l'histoire du tapis hooké. Et on a maintenant le musée en haut et la collection à Marguerite Galland. pour parler de l'histoire de Chiticamp depuis ses débuts. Puis on est responsable du bureau d'information touristique. On travaille de proche avec la province de la Nouvelle-Écosse, Destination Cape Breton, pour assurer qu'on peut offrir à nos visiteurs de l'information dans les deux langues sur ce qui se passe à Chiticamp et les environs. Puis le dossier que nous regardons de près dernièrement, c'est la circonscription acadienne pour notre région de Chiticamp. La Fédération acadienne prend le lead sur le dossier, mais la Société Saint-Pierre le surveille de près pour voir s'il y a des possibilités de nous accorder notre propre circonscription acadienne. Puis on va peut-être en savoir plus long d'ici la fin de l'année, parce qu'on va la fin va en cours au mois de novembre 2022. Fait qu'on travaille avec le secteur privé, les organismes communautaires, quand ça vient à organiser des activités. Puis là, je parle de la Fête du Canada avec le Parc national. On a une relation avec le parc très, très importante pour la Société Saint-Pierre. Pour organiser toutes sortes d'activités. À l'automne, Celtic Colors, on organise des activités communautaires entourant les spectacles de Celtic Colors. Puis là, moi-même, je siège au bureau de direction de Destination Cape Breton. Alors, je suis capable d'emmener de l'information dans la communauté qui peut nous intéresser au niveau touristique. Fait que c'est des relations qu'on continue à bâtir.
En terminant, Lisette, on sait qu'on est toujours en pleine pandémie de la COVID-19. Est-ce qu'on prévoit quand même certaines activités pendant l'année pour souligner le 75e anniversaire de la Société Saint-Pierre?
Oui, on reste optimiste. On vient de lancer notre nouveau logo sur nos pages de médias sociaux. Puis, on est pas mal fiers de notre logo. Puis, ça lance un peu la fête qu'on souhaite avoir pendant toute l'année. On aimerait organiser des activités presque à tous les mois. Évidemment, ça va être plus visible pendant les mois d'été et à l'automne lors de notre Assemblée générale annuelle. Mais le gala, par exemple, du festival, on va le faire pour honorer le 75e anniversaire de la Société Saint-Pierre. On souhaite organiser une activité d'ici la fin mars aussi, et là, au printemps, avec Racine et Bottine. Fait que toutes nos activités auront un sous-thème de souligner d'une façon ou d'une autre le 75e anniversaire de la Société.
Alors, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Bonne chance avec les événements pour souligner le 75e anniversaire de la Société Saint-Pierre. Lisette Bourgeois, directrice générale, merci beaucoup. Bonne chance.
Merci, Daniel.
Et bien voilà ce qui complète cette édition de Point de vue, une émission produite par les équipes radio de l'Initiative de journalisme local et présentée par le Fonds de la radio communautaire du Canada. Découvrez toutes nos nouvelles sur canada-info.ca, canada-info.ca. Les reportages en deux langues de nos journalistes y sont mis en ligne au quotidien. Ils nous permettent de découvrir le Canada dans son entier et d'avoir un autre point de vue sur nos communautés locales. Retrouvez-nous aussi sur nos médias sociaux et notamment sur Twitter, @CanadaLJI, @CanadaLJI. On remercie nos journalistes Thomas Etier, Hélène Lequitte, Gisèle Bouchard, Daniel Aucoin, Vincent Savard et Carole Saint-Cyr. Merci d'avoir été avec nous ici, Boris Chassagne. Au revoir.
Canada-info.ca.